Bonjour à vous tous. Un excellent sabbat. Le titre de mon message aujourd'hui, sel de la terre et lumière du monde. Ça, c'est deux traits caractéristiques qui doivent vraiment identifier les vrais chrétiens, comme on va le voir dans le message. Lisons le passage où Jésus définit justement cette réalité importante. Reportez-vous au livre de Matthieu, 5e chapitre, Matthieu chapitre 5, et vous pourrez faire comme moi, mettez un petit signet à Matthieu chapitre 5 dans cette page-là, parce qu'on va revenir régulièrement après avoir été voir autre chose ailleurs. Donc Matthieu 5 et le début du verset 13, voyez ce que le Christ dit, « Vous êtes le sel de la terre ». C'est quoi le rôle du sel? Le rôle du sel, ça donne du goût, hein? Ça donne de la saveur aux aliments. Si ça n'a pas de sel, c'est fade. Alors, ça a un rôle bien précis. Alors, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Après ça, il donne un autre exemple. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et plus ça va aller, parce qu'on est totalement différent du monde autour, plus notre lumière va être visible, parce que nous n'agissons plus comme nous agissions avant, et la différence devient encore plus marquée avec les gens autour, qui sont de plus en plus dans les ténèbres, comme on voit, dans des situations extrêmement difficiles. Alors, la question qu'on peut se poser, dans mon cas à moi, est-ce que je suis vraiment sel de la terre et lumière du monde? Si je ne le suis pas assez, comment puis-je le devenir davantage, comme le Christ veut que nous soyons? Parce que c'est un commandement qu'il nous donne d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et on va voir tantôt en quoi ça consiste. D'ailleurs, il a lui-même répondu à cette question quelques lignes auparavant. Seulement, quand il a donné une liste de choses à faire, par les appeler, pour qu'il soit, en le faisant, béni, pour qu'il soit béni par Dieu. Parce que vous allez voir, ce sont les béatitudes, et à chaque béatitude, ça commence par dire « heureux, béni, celui et celle qui fait telle ou telle chose ». Alors, le Christ nous commande de le faire pour que nous soyons bénis. Mais en même temps, il commande de le faire pour qu'en faisant ces choses, nous soyons pour le monde ténébreux, sombre, souffrant et malheureux qui nous entoure, que nous soyons un éclairage, que nous soyons simplement une saveur, un témoignage du nouveau monde qui s'en vient, de la nouvelle culture qui approche, du merveilleux monde à venir qui va commencer très bientôt, et on le demande, avec la venue prochaine du Christ. Sans sel, c'est absence de saveur. Sans lumière, c'est obscurité. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus malheureusement dans le monde autour de nous. Autant de noirceur, de souffrance et de difficultés des humains les uns envers les autres. Maintenant, voyons de plus près l'enseignement du Christ à ce sujet-là. Matthieu 5, versets 1 et 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, et là, il va commencer à donner les béatitudes, ce qu'on appelle les béatitudes. Verset 3, la première, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que ça veut dire, « pauvre en esprit » Écoutez, ce n'est pas les gens, parfois qu'on dit en blague, « être pauvre d'esprit ». Pauvre d'esprit, ça veut dire peu intelligent. C'est pas du tout ça. Ceux qui sont pauvres en esprit, ce sont ceux qui sont humbles. qui ne se considère pas comme important. C'est le contraire d'être orgueilleux, d'être autosuffisant, de n'avoir besoin de rien et même de personne. Comme les Laodicéens. Quand vous regardez dans la Bible, le dernier groupe de l'Église de Dieu qui passera par la grande détresse, ce sont des membres de l'Église qui sont autosuffisants, qui ne voient pas leur besoin absolu de Dieu en toute chose et qui ne sont pas pressés pour faire les choses qu'ils ont à faire. Alors, ceux qui sont comme ça, donc pauvres en esprit, ce sont des gens qui se considèrent comme peu importants, qui sont conscients du besoin qu'ils ont de Dieu en toutes choses. Et plus on connaît Dieu, plus on voit nos faiblesses, plus on réalise qu'on a besoin de Dieu en toutes choses. Alors, ceux qui sont pauvres en esprit, ce sont ceux qui sont humbles. Et c'est d'ailleurs la base du christianisme. Il y a un bel exemple de ça dans Luc 18. Gardez votre petit signet dans Matthieu 5, on va y revenir. Mais allez dans Luc chapitre 18. Le bel exemple de ça, c'est le publicain et le pharisien. Vous vous rappelez le pharisien qui disait, « Moi, je paye la dîme, je jeûne deux fois par semaine, je fais ci, je fais ça, je suis bon, j'ai besoin de rien. » Alors que l'autre, le publicain, dit à partir du verset 13, « Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Dieu, sois apaisé envers moi. » car je suis un pécheur. J'ai besoin, un, que tu me pardonnes toutes mes fautes, mes faiblesses. J'ai besoin que tu m'aides à faire le chemin. Et regardez ce que le Christ dit. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Celui-là a été pardonné, parce qu'il voulait être pardonné et faire mieux. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse, qui se reconnaît comme impuissant, sera élevé. Parce que Dieu va lui donner sa puissance pour l'élever au temps convenable. Formidable, tout ça se tient. D'ailleurs, c'est précisé dans le livre de Proverbes. Allez à Proverbes, au chapitre 15. Proverbes, chapitre 15, et on va lire le verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Mais oui, parce que quand on a ce respect envers Dieu, qu'on désire lui obéir, Dieu nous donne sa sagesse pour qu'on soit capable d'aller plus loin et de faire graduellement de plus en plus les choses qu'on a à faire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et regardez après, ça va ensemble. L'humilité précède la gloire. On ne pourra jamais entrer dans la gloire de Dieu si nous n'avons pas au point de départ cette humilité. Un, de reconnaître nos fautes et deux, de reconnaître et de demander à Dieu parce qu'on a besoin de lui en toute chose. Ça, c'est notre chemin. Allons plus loin. On revient maintenant à Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Et on va lire le verset 4 maintenant. Heureux, une autre catégorie. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Qui sont les affligés? Et quelles sont ces afflictions-là dont il est question ici? En fait, comme on va voir, il est question de deux sortes d'afflictions ici. Que Dieu veut voir dans chacun de ses appelés pour être capable de les amener à terme et de leur donner la vie éternelle. La première affliction, ce qui doit nous affliger, c'est nos fautes. Et d'ailleurs, c'est le premier pas d'un chrétien vers la vie éternelle. Regretter nos fautes et continuer de les regretter quand on manque notre coup. Et demander encore sa miséricorde. C'est ça. Mais le premier pas, c'est être affligé par nos transgressions, comme on voit dans Ésaïe 66. Ésaïe, le chapitre 66. Et regardez la dernière partie du verset 2. Voici sur qui je porterai mes regards. Voici qui je regarderai de façon particulière dans le monde. Sur qui je porterai mes regards pour en prendre soin. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, pas celui qui est simplement découragé, c'est pas ça. Celui qui est abattu parce qu'il a transgressé les lois de Dieu et qui a causé la mort de son Créateur en faisant ça. Alors il dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, celui qui se repent, sur celui qui craint ma parole, qui respecte les choses que je lui ai demandées. Alors ça, c'est la première sorte d'affliction qu'on doit avoir pour être heureux selon Dieu, pour être béni. Et la deuxième sorte d'affliction qu'on doit avoir, c'est d'être attristé ou être affligé de voir chaque jour l'état lamentable du monde, sa méchanceté, sa violence, sa folie, sa fraude, toutes ces misères que nous attirons sur nous-mêmes. Tout ce qui va amener d'ailleurs le terrible châtiment que Dieu a en réserve pour nos nations. Allons voir ça dans Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel, s'il vous plaît, le chapitre 9. Dieu parle de ce qu'il prépare comme châtiment pour nos nations qui agissent comme elles agissent de plus en plus contrairement à ses lois et de plus en plus méchamment. Ézéchiel chapitre 9, verset 2. Et voici, six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Et regardez, verset 4, l'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, c'est-à-dire au milieu des nations israélites, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent, donc qui sont attristés, qui sont affligés, de toutes les abominations qui se commettent. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, « Passez après lui, dans la ville, et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura la marque sur lui. Commencez par mon sanctuaire. » Alors, ça, c'est ce que Dieu annonce, qui viendra bientôt, qui va faire partie du châtiment que Dieu va amener sur nos nations, mais il promet la protection à ceux qui ont à cœur d'être affligés de ce qui se passe dans le monde et qui le supplient chaque jour de mettre fin à ça. Et moi, plus souvent qu'autrement, maintenant, quand je parle de ça à Dieu, à chaque jour, je lui demande, bien sûr, que ce soit ta volonté, Père, mais s'il y a moyen, abrège le temps. Fais que ça soit plus court d'ici au retour de Christ. C'est ta décision, mais je te soumets ça humblement. Que ce soit ta volonté, pas la mienne. Mais c'est tellement difficile de voir souffrir les gens comme ils souffrent actuellement. Alors, en s'affligeant de cette façon-là, puis en parlant régulièrement à Dieu de ce qu'on voit, pour qu'il intervienne, pour plaider, autrement dit, la cause du retour de Christ, on fait exactement comme Lot faisait. Lot était affligé aussi des choses qui se passaient autour. Et voyez ce que Dieu a fait pour lui, la même chose qu'il va faire, comme on vient de voir la description ici dans Ézéchiel, la même chose qu'il va faire pour vous et pour moi, si sincèrement on déplore ce qui arrive aux autres, qu'on en est attristé et qu'on fait notre travail pour soutenir l'œuvre tout en le suppliant que son règne vienne. 2 Pierre, s'il vous plaît. Allez dans 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Et nous allons lire les versets 7 à 9. Il a délivré Lot, le juste. Pourtant, Lot n'était pas parfait. Vous connaissez son histoire. Comme nous, on n'est pas parfait non plus. Mais il faut pratiquer la justice de Dieu. Il dit, il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement, chaque jour, il tourmentait son âme à cause de ce qu'il voyait et qu'il entendait à cause de leurs œuvres criminelles. Voyez-vous, il n'était pas indifférent à ces choses-là. Comme vous et moi, on n'est pas indifférent à ce qu'on voit autour. Et c'est la raison qui nous pousse à insister tant auprès de notre grand Dieu. Verset 9. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve et de ce qui vient, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Donc, Matthieu 5, verset 4, qui dit « Heureux les affligés », la récompense qui vient avec ça, c'est ils seront consolés. Ils seront consolés et même ils auront la protection spéciale de Dieu dans les moments difficiles qui viennent. Allons plus loin. Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, c'est pas les, on va dire, dans le langage québécois, les bonasses ou ceux qui sont faibles, pas du tout. Ceux qui sont débonnaires, ce sont ceux qui sont doux. Quand on regarde le sens du terme original, ça veut dire doux. Comme Jésus d'ailleurs. Jésus nous a donné la définition de sa douceur. Allez dans Matthieu 11, juste quelques pages plus loin de Matthieu 5. Matthieu chapitre 11, on va lire le verset 29. Matthieu 11, verset 29. On peut commencer au verset 28 parce que tout ça contient un grand encouragement pour nous. Venez à moi, c'est le Christ qui parle. Tournez-vous vers moi lorsque vous avez des difficultés, des inquiétudes, des problèmes, des difficultés de toutes sortes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et beaucoup de gens sont fatigués, et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos, c'est une promesse. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Donc, faites ce que je vous dis. C'est ça le joug que le Christ met sur nous, ses lois qu'on doit mettre en pratique pour en être heureux, pour en être béni. Car je suis doux et humble de cœur. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voyez-vous les promesses extraordinaires qu'il y a dans ce contexte-là, de la part du Christ lui-même qui dit, je suis doux. Je vais m'occuper de vous dans cette douceur-là. Et je pensais à ça hier soir. Je regardais une image de grandes eaux, des grandes chutes. Et je me disais, Dieu a une puissance extraordinaire là-dedans. Et à un moment donné, il y a de la douceur même dans les chutes, dans la puissance de Dieu. Il y a même de la douceur dans la puissance de Dieu pour accomplir ce qu'il accomplit. Alors donc, des débonnaires, ce sont des gens qui font preuve de douceur, comme le Christ. Et c'est ça qu'on doit développer. De gentillesse, qui font preuve de bonté, qui se soucient des autres, se soucient vraiment des autres. Et vous avez sûrement fait l'expérience, comme moi, je fais l'expérience régulièrement de ça, d'avoir le plaisir d'être en compagnie de gens qui ont cette qualité-là de douceur comme le Christ. Pourquoi? Pourquoi on se sent bien en présence de ces hommes-là et de ces femmes-là? C'est parce que ces gens-là ne se vantent point. C'est pas des gens qui sont là pour se vanter, pour remplir la conversation de ce qu'ils ont fait, de leur réalisation et tout ça. Ils ne se vantent point. Ils n'essaient pas de se montrer ou de montrer leur savoir biblique ou tout ça. Non, c'est pas ça. Il y a une affection, il y a une considération envers vous qui êtes à côté. Parce qu'ils sont positifs. Ces gens-là, qui sont doux selon le Christ, ne sont pas accusateurs des autres. Ils n'ont pas plein de choses à dire contraire aux autres, ou sur leurs défauts, ou sur leurs problèmes. Et ils ne sont pas centrés sur eux-mêmes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils prennent la peine de vous écouter, d'essayer de comprendre vraiment ce que vous avez à leur dire. Ils nous considèrent, ils nous encouragent. On est bien en leur compagnie, comme on est bien en compagnie du Christ, qui est doux et humble de cœur et qui veut nous donner du repos. Et ces personnes-là nous donnent du repos quand on parle avec elles. Très intéressant. Et la promesse qui vient avec ça, c'est d'hériter l'administration de la terre. Et Dieu veut avoir comme administrateur de la planète des gens comme le Christ qui ont cette douceur-là, cette considération-là, tout en ayant derrière ça l'immense puissance que le Christ a. Parce que là, il va nous la donner si on a développé ces caractéristiques-là. Nous allons hériter l'administration de la terre grâce à ces qualités-là qu'il nous aura donné de développer. On retourne à Matthieu 5. Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Qu'est-ce que c'est cette faim et soif de justice? On peut penser au point de départ que c'est avoir soif d'être traité justement. Humainement, on désire ça, c'est normal. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici au point de départ. Ceux qui ont faim et soif de justice, c'est ceux qui ont faim et soif de vivre selon la justice de Dieu. C'est ça, faim et soif de justice de Dieu. On peut la préciser de cette façon-là. Voyez-vous, notre chemin est toujours vers la vie éternelle, vers le fait de développer le caractère de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre de la justice de Dieu. Ça, c'est le sens spirituel profond de cette directive-là. D'ailleurs, la directive, c'est plus qu'une directive, je devrais dire, c'est un commandement. C'est un commandement. Avoir faim et soif de justice. Reportez-vous à Ésaïe. Retournons au livre d'Ésaïe, cette fois-ci au chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55. Versets 1 et 2. Et début du verset 3. Vous tous qui avez soif, de quelle soif est-ce qu'il s'agit? La soif de la justice de Dieu, la soif de vivre selon les commandements de Dieu. Vous qui avez soif, venez aux eaux vives, à l'Esprit de Dieu. Mais celui qui n'a pas d'argent, parce que nous, on peut pas acheter ça. Ça s'achète pas, comme la vérité. C'est pour ça que l'Église de Dieu ne vend rien. Et dès qu'une organisation vend quelque chose concernant ce qu'elle enseigne, supposément de la Bible, ce n'est pas l'Église de Dieu. Ce n'est pas la façon de faire. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? En d'autres termes, pourquoi est-ce que vous cherchez à être heureux au mauvais endroit? Ou par les mauvais moyens? Là, Dieu est en train de nous montrer qu'il y a quelque chose de plus que ça, un autre niveau plus élevé. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Parce que ceux qui travaillent simplement pour travailler, il y a des bourreaux de travail, ou simplement pour amasser des choses pour eux, et supposément pour être les plus riches possibles, ne sont pas satisfaits par leur argent. J'ai vu ça à quelques reprises. Et il n'y a jamais de bout. Il n'y a jamais d'arrêt au fait d'en avoir plus. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Vous allez goûter la bonne nourriture de Dieu, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Vous serez en marche vers la vie éternelle. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Voyez-vous, Dieu nous amène ici à une autre dimension pour qu'on sache vraiment l'importance des vraies choses, des choses spirituelles de Dieu, avoir soif et faim de sa justice. Et regardez, il nous dit comment faire pour être dans la bonne direction. On trouve ça au verset 6, juste un peu après, dans Ésaïe 55. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et moi, je dois vous dire que le temps où l'Éternel peut être trouvé par ceux qui le cherchent tire à sa fin avec les événements que l'on voit. Alors, ça nous dit d'utiliser le temps qui nous reste au maximum. Non pas pour s'inquiéter ou pour être écrasé, mais pour prendre les bonnes priorités, de laisser nos inquiétudes entre les mains du Christ et nous, de faire ce que nous avons à faire pour parcourir le chemin jusque-là. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, tandis qu'il est proche, parce que le temps vient où il ne sera plus atteignable. Bientôt, il y aura famine de la parole de Dieu. La Bible ne sera plus disponible, ni les enseignants de la Bible. Alors, c'est pour ça que c'est le temps maintenant de faire ce qu'on a à faire avec tout notre cœur, en ayant les bonnes priorités. Et c'est pour ça qu'il précise après que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Donc, il dit « continue à changer ». Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Si on s'est détourné, faut retourner à lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Lorsqu'on se repent, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Mais il faut continuer à se repentir. Alors, ici on voit que chercher l'Éternel, c'est avoir faim et soif de sa justice. C'est pratiquer de tout cœur ses lois. Vivre ses sabbats chaque semaine. Faire ce qu'il faut. Et observer ses fêtes, en commençant par la Pâque, qui est le point de départ, parce que c'est lié à notre repentir aussi, à l'humilité qu'on doit avoir. Prendre la Pâque, reportez-vous à Jean chapitre 6. Jean Évangile de Jean au chapitre 6. Et nous allons lire les versets à partir des versets 53. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. » Ça, c'est la base. Et qu'est-ce que c'est de boire son sang et de manger son corps? C'est de prendre la Pâque sous forme de symbole, le pain sans levain et le vin qui représente son sang. Il dit, si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez pas ça en pratique après avoir été baptisé, vous n'avez pas le dépôt de la vie éternelle en vous-même. Tout simplement, ça commence là. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang au moment de la Pâque sous forme de ces symboles, a la vie éternelle. Voyez-vous? Il y a un dépôt de la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça fait partie de notre démarche vers le grand but. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alors voyez-vous l'importance et du sabbat et des sept fêtes de Dieu, à commencer par la fête de la Pâque lorsqu'on est baptisé, pour répéter ces choses-là et rester attaché à Dieu. Continuer à le chercher pendant qu'il est prêt et pendant qu'on peut le trouver. Alors voyez-vous, les personnes qui ont faim et soif de justice, ce sont celles qui ont découvert leur besoin de se nourrir du Christ, comme le disait M. Bénédicte si souvent, par la Pâque, mais de se nourrir de sa parole chaque jour, parce que ça, c'est le caractère du Christ en écrit, c'est son plan. Alors, c'est pour ça que chaque jour, il faut s'en nourrir, prier Dieu, jeûner régulièrement pour en vivre. Ça, c'est vivre selon la justice de Dieu. Dans le fond, c'est avoir le même but prioritaire que le Christ, notre grand frère. Parce qu'il dit dans Jean 4, verset 34, pas besoin de vous y reporter, je vais vous le lire. Jean 4, verset 34, regardez son but, très clair. Il n'a jamais dérogé. Il a même payé de sa vie pour ça. Ma nourriture, donc ce qui me fait vivre, ce qui me motive, ma nourriture, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, là, ce que j'ai besoin chaque jour, ce qui me motive, ce qui m'aide, ce qui me soutient, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans votre cas, dans mon cas, on peut dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. Celui qui m'a appelé. Et d'accomplir son œuvre. Allons encore plus loin. On revient à Matthieu 5. On est habitué un petit peu de tourner vers là, là. Matthieu, chapitre 5, et on va lire le verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça, pour Dieu, c'est vital. C'est la base. Écoutez, pour que nous puissions être pardonnés, il nous faut nous pardonner. Dieu a donné l'exemple. Comment il a donné l'exemple? Il a donné son Fils unique dans des souffrances atroces pour que nos fautes puissent être pardonnées, pour que lui puisse nous pardonner lorsque nous nous repentons de nos fautes. Alors, c'est lui qui a initié le processus de miséricorde. Et après, il nous dit, écoutez, j'ai tout fait ça parce que je suis miséricordieux pour vous. Soyez vous-même maintenant miséricordieux envers qui que ce soit qui vous a fait quoi que ce soit. Ayez la même disposition que j'ai et pratiquez la même chose. La miséricorde et le pardon sont absolument inséparables. Dieu nous a tout pardonné au moment de notre baptême. Absolument tout. Alors, c'est pour ça que nous devons aussi pardonner à ceux qui nous font du tort et à ceux qui nous offensent. Et là, je vous apprends rien, mais c'est impossible que vous ne receviez pas des offenses et que vous ne subissiez pas de tort de la part de d'autres personnes. Vous en avez subi, j'en ai subi, nous en subirons encore. Mais là, Dieu nous donne la recette dans ces circonstances-là. Il dit ça, vous pouvez pas changer ça. Mais ce que vous pouvez changer, c'est votre réaction avec mon aide et d'être capable de devenir comme moi. Parce qu'il faut que vous deveniez comme moi au point où je puisse un jour vous donner la responsabilité d'administrer toute la terre. C'est ça, là. On est en formation actuellement. Et c'est pour ça qu'il nous montre les choses de base qu'on doit absolument apprendre. Et regardez, lorsqu'il est question de la miséricorde de Dieu, ça vaut la peine, reportez-vous à psaume 103. Ça, c'est un psaume qui chante, je devrais dire, la miséricorde de Dieu. Psaume 103. On ne lira pas tout le psaume, mais deux ou trois versets qui nous montrent exactement la grande miséricorde de notre Dieu formidable. Psaume 103, versets 11 et 12. On va commencer au verset 8, pardon. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Verset 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et la bonté de Dieu, c'est celle qui nous pousse à nous repentir et qui nous offre les moyens d'y arriver. Verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, et ça c'est l'infini dans les deux sens, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voyez-vous comment, quand il pardonne, ça n'existe plus, c'est parti à l'infini. Dans l'infini, ça n'existe plus pour lui. Ça, c'est tellement encourageant, c'est tellement libérateur. Il y a des gens qui arrivent à l'Église avec un fardeau de péché, c'est le cas de tout le monde, mais certains en souffrent davantage ou ont fait davantage de mal, ils sont écrasés par ça. Mais lorsqu'ils voient la grandeur de la miséricorde de Dieu qui fait de telles choses et qui ne se souvient même plus de nos fautes après les avoir pardonnées, ils sont libérés et ils voient la grandeur de Dieu. Maintenant, ça c'est en ce qui concerne Dieu. Et là, Dieu dit, vous autres, faites la même chose que moi je fais. Vous n'y arriverez pas tout d'un coup, mais faites-le, demandez mon aide et je vais vous la donner. Matthieu chapitre 6. Allez au livre de Matthieu, où on était il n'y a pas longtemps. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. Versets 14 et 15. Regardez ce que Dieu dit. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, qui viennent inévitablement, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » C'est automatique. Si vous le faites, moi je vais le faire. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et voyez-vous qu'à ce moment-là, on n'est pas capable d'avancer spirituellement. Il y a un blocage qui doit, si on veut être capable d'avancer un jour, qui doit tomber. Absolument. De nous-mêmes, non, c'est pas possible. Mais avec Dieu qui peut toutes choses, là, ça devient possible. C'est incroyable ce que des gens ont été capables de pardonner par rapport à ce qui leur a été fait, des choses qui sont inimaginables. Mais ils l'ont fait. Et une fois qu'ils l'ont fait, je le sais, j'en connais dans l'Église, une fois que ces gens-là l'ont fait, ils étaient tellement, tellement soulagés, heureux, heureux ceux qui exercent la miséricorde avec l'aide de Dieu. Bien sûr, il faut du temps et il faut de la patience pour développer, pour être capable d'atteindre la vraie miséricorde. Ça prend du temps puis ça prend de la patience. Et ça prend d'abord l'aide de Dieu. Je reviens toujours à ça. C'est en toute chose qu'on doit compter sur lui. Et je résume en disant ceci. Exercer la miséricorde, c'est pas un choix. C'est pas un choix. C'est un commandement. C'est un commandement qu'on doit être miséricordieux comme Dieu a été miséricordieux et comme il continue de l'être envers nous. Allons plus loin. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 8 maintenant. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté de cœur, c'est le rejet de toutes les pensées humaines qui sont contraires à Dieu. Parce qu'au point de départ, comme la Bible nous mentionne, nous sommes ennemis de Dieu. Nous pensions tellement contrairement à Dieu, même s'il pouvait y avoir certaines petites ressemblances. Nous étions ennemis de Dieu, comme la Bible nous dit. Alors la pureté de cœur, c'est de rejeter de plus en plus les pensées humaines. C'est la pureté de nos pensées, la pureté de nos intentions, la pureté de nos motifs. Et ça, faut les examiner. Quand on fait quelque chose, on peut se demander, pourquoi est-ce que je le fais vraiment? Pourquoi est-ce que je rends service à telle personne et pas à telle autre? Là, on touche nos motifs, ça touche le fond du problème ou de la question, si vous voulez. Alors ça, c'est la pureté des pensées, des émotions, des motifs. Regardez Philippiens, où il est question de ça. Parce que nos pensées sont choisies, qu'on le veuille ou non. Parfois, on décide de penser à quelque chose. Ou parfois, il y a des pensées qui nous viennent, où on les garde, on s'en va avec. Mais les pensées qu'on doit garder, là, c'est toujours un choix qu'on a à faire. On a toujours un choix par rapport soit ce qui nous vient de souvenir, ou soit ce qui nous est inspiré par la société ou par l'adversaire. Regardez ce qui est marqué dans Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Et le verset 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, nous on parle des bonnes pensées qu'on doit garder, entretenir, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est là qu'on a notre choix de garder ou non certaines pensées qui nous viennent. Et si on n'est pas conscient qu'on doit faire un choix dans nos pensées, on est entraîné là-dedans et à regret parce que ça amène des choses négatives ou ça nous amène à pécher ou ça nous éloigne de Dieu sans qu'on s'en rende compte. Alors, on a un choix à faire. Et après, verset 9, il dit, « Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, les enseignements de Paul, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, faites ce que je vous dis, choisissez vos pensées, contrôlez votre esprit, et le Dieu de paix sera avec vous. » Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est formidable. Voyez-vous, ça vient de Dieu par son Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut revenir encore à ça. Il faut lui demander chaque jour son Saint-Esprit. Redonne-moi de ton Esprit Saint. Redonne-moi de cette force que j'ai besoin chaque jour pour faire ce qu'il faut faire. Ça vient de Dieu, comme d'ailleurs tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, qu'on vient de voir. Ça vient de Dieu. La société, elle, a d'autres choses à nous offrir. Et dans nos souvenirs, il y a des choses autres que les belles choses de Dieu. Alors, cette pureté de cœur-là nous permet d'éliminer, puis nous permet de remplacer toute racine d'amertume progressivement. Elle nous permet de remplacer la malice et la colère humaine, qui est notre lot au point de départ. Et ça nous rend capable de dire, et ça c'est pas peu de choses, comme Jésus, par rapport à ceux qui nous font du tort, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est vrai, ils sont pas appelés encore, ils ne connaissent pas la vérité biblique, ils ne connaissent pas le plan de Dieu. Alors, ils vivent avec ce qu'ils connaissent, tout simplement. C'est à nous de faire la différence. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, on peut demander à Dieu, Père, occupe-toi de ce problème-là. Moi, je veux pas créer de problème et aller plus loin avec ce qu'ils m'ont fait. Je mets ça entre tes mains. Voyez-vous, là, il y a une promesse pour ceux qui se purifient. Il y a une promesse pour ceux qui développent cette pureté de cœur. Ils verront Dieu, parce que Dieu est parfaitement pur. C'est en ça qu'on s'en va vers lui. Dieu est parfaitement pur. Ils vont voir Dieu un jour. Comment? Dans son état totalement glorieux. On ne peut pas le voir dans son état glorieux avec notre condition humaine. Allez dans 1 Jean chapitre 3, dans les lettres de Jean, juste avant l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 3 et regardez le verset 3. Quiconque a cette espérance d'avoir la vie éternelle par l'aide de Dieu, par son esprit, quiconque a cette espérance en lui se purifie. Voyez-vous, il faut éliminer ce qui est contraire à Dieu et à ses lois, comme lui-même est pur. Et il nous donnera d'arriver à cette pureté parfaite le jour où le Christ viendra, si on est encore en train de se purifier. Et regardez le verset 2, juste avant. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Lorsqu'on a été baptisé, qu'on a reçu son Saint-Esprit, et ce que nous serons, parce qu'on nous serons transformés complètement, n'a pas encore été manifesté. Nous sommes encore physiques. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ viendra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons de même nature que lui, de nature totalement spirituelle, et nous le verrons en tant qu'être totalement spirituel. Glorieux. C'est fantastique, ça, ce qui nous attend de ce côté-là. Inimaginable. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les faiseurs de paix, Heureux ceux dans l'Église qui sont pacificateurs, les faiseurs de paix. Pour ce qui est écrit dans Jacques 3:18, je vais simplement vous le citer. Jacques 3:18, le fruit de la justice de pratiquer les lois de Dieu est semé dans la paix. L'approche de ceux qui pratiquent la justice est une approche paisible par ceux qui recherchent justement la paix et qui, en faisant ça, se préparent à être ceux qui vont créer la paix dans le monde de demain. Dans Marc 9, verset 51, Marc 9, verset 51, en préparant le message, j'ai découvert ce verset-là qui m'avait jamais frappé ou sur lequel je m'étais jamais arrêté, comme j'ai fait en préparant le message. Marc 9, verset 51. « Ayez du sel en vous-même. » Regardez bien. « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. » Regardez comment tout se tient. Il dit « Ayez du sel en vous-même. » Ce qui donne la saveur de l'amour de Dieu, de la douceur du Christ, de s'inquiéter du besoin des autres et ainsi de suite. Il dit « Ayez du sel en vous-même. » Et soyez en paix les uns avec les autres. Et je dirais, une façon de le faire, c'est de ne pas se venger quand on nous fait du tort, de ne pas nous venger, de ne pas rendre les coups, comme on va dire. Allez dans Romains. Romains chapitre 12, s'il vous plaît. Romains chapitre 12. Et on va lire simplement les versets 17 à 19. 17 à 19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. On rend pas les coups. On ne se venge pas. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, ce qu'on a vu tantôt. Les bonnes pensées qu'on doit avoir et les bons gestes qui doivent en découler. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et je sais que c'est parfois pas possible d'être en paix avec des gens autour. Parce que si les autres ne veulent pas être en paix avec nous, on ne peut pas les forcer. Mais dans ce cas-là, il dit, en autant que c'est possible, soyez en paix. Mais si c'est pas possible, mettez ça dans les mains de Dieu et n'allez pas plus loin. Ne vous vengez pas. Voyez-vous la méthode qu'il nous donne ici pour faire les choses avec son aide. S'il est possible, parce que c'est pas toujours possible, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est l'idéal. Et après, il précise, ne vous vengez point vous-même, bien-aimé. Touchez pas à ça. Mettez ça dans les mains de Dieu. Dieu dit, la vengeance est à moi. Dieu dit, la vengeance est à moi. Alors, s'il y a quelque chose qui nous arrive comme ça, on peut dire, bénis la personne, elle ne comprend pas. Occupe-toi-en. Donne-moi de me retirer de ce dossier-là et de laisser porter. Laisser porter. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Lui va s'en occuper. Lui va s'en occuper. Matthieu 5 et le verset 10. On retourne à notre Matthieu 5. Heureux ceux qui sont persécutés. Pour la justice, voyez-vous, pas pour avoir fait des méchants coups, là. Si on se pense persécuté parce qu'on a transgressé des règles du gouvernement et qu'on doit payer des impôts qu'on n'a pas payés en temps et des choses de même, qu'on est pourchassé, on peut dire que c'est une persécution, mais non, là, on paye pour les fautes qu'on a faites. Mais c'est pas ça ici. Il dit, heureux, verset 10, ceux qui sont persécutés pour la justice, qui sont persécutés parce qu'ils obéissent à Dieu, parce qu'ils observent le sabbat, parce qu'ils ont arrêté d'observer Noël ou les grandes fêtes d'anniversaire, ou qui ont arrêté d'observer l'Halloween et ces choses-là. Non. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pour observer les lois de Dieu, car le royaume des cieux est à eux. C'est eux qui vont régner dans le monde de demain. Un vrai chrétien qui vit selon les lois de Dieu, il est automatiquement, et j'insiste là-dessus, il est automatiquement persécuté. À divers degrés, de diverses façons, par qui? Par plein de gens autour, bien sûr, mais d'abord, je dirais, par ceux qui l'entourent, par nos proches. Nous avons vécu ça, mon épouse et moi, et vous avez tous vécu ça à différents degrés dans vos familles. Que ce soit un conjoint qui n'est pas appelé pour l'instant, que ce soit des enfants qui ne sont pas appelés pour l'instant, des parents, des collègues de travail ou des amis à l'école qui ne comprennent pas encore. Ils ne peuvent pas comprendre. Alors, c'est d'abord ceux-là qui nous persécutent. Et là, on a besoin de la force de Dieu. Et je le vois. Il y a des gens qui, même actuellement dans l'Église, sont beaucoup persécutés par des proches comme ça. Mais ils tiennent le coup. Et ils tiennent le coup pourquoi? Parce que Dieu leur donne. Parce qu'il leur demande. Parce qu'il le demande et parce qu'ils tiennent bon. Et Dieu renforce leur démarche. Le Christ nous en a averti de ça. Allez dans Jean, le chapitre 15. L'Évangile de Jean, s'il vous plaît, le chapitre 15. C'est pas quelque chose qu'on cherche, on ne veut pas. On essaie d'être en paix avec nos proches, mais s'ils ne veulent pas non plus, on peut pas les forcer. Et à ce moment-là, on doit prendre l'attitude qu'on doit prendre pour continuer à obéir à Dieu. On ne peut pas, dans ces cas-là, faire de petits compromis pour essayer de faire plaisir à un conjoint ou à un enfant ou à un parent ou à qui que ce soit. Là, à ce moment-là, si on fait ça, c'est qu'on est en train de s'éloigner de Dieu et de mettre notre salut en péril absolument. Alors, donc, Jean, chapitre 15, et regardez les versets 20 et 21. Souvenez-vous, c'est le Christ qui parle, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, et ils l'ont persécuté. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'était évident, Dieu nous avait averti. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Verset 21, « Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Ils ne connaissent pas le vrai Dieu, ils ne connaissent pas qui vous connaissez, et ils n'ont pas la force que vous avez en vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. » Et rappelez-vous, quand je vous ai baptisé, c'est ce qu'on doit faire avec chacun des baptisés, on a mis en avant les conditions que ça représentait. Que vous devez mettre Dieu en premier, avant votre père, votre mère, vos enfants, votre travail, vos amis, même votre propre vie. Ça m'a été adressé comme condition avant que je sois baptisé aussi, il y a plusieurs années. Et ça reste la même chose. Alors, faut pas être surpris qu'il y ait des tribulations comme ça, qu'il y ait des persécutions. Mais il faut tenir à ce moment-là. Tenir à l'engagement qu'on a pris duquel on ne peut pas reculer sans tout perdre, l'engagement qu'on a pris le jour de notre baptême. Nous avons accepté ces possibilités-là au moment de notre baptême. Et par la force qui nous est promise, nous pouvons passer à travers, nous pouvons tenir le coup pour entrer dans le royaume. Maintenant, allons un petit peu plus loin, Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. On dit des faussetés. Vous serez accusés, vous êtes accusés déjà plusieurs, à cause de moi. Voyez-vous, encore là, c'est à cause du Christ, parce que vous suivez le Christ. Verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et quand vous regardez l'histoire des prophètes de Dieu, ça a été ça tout le temps. Et dans ce sens-là, vous êtes, je pourrais dire, les prophètes de Dieu parce que vous vivez, vous prêchez pas la vérité, vous prêchez pas la Bible, mais votre façon de vivre annonce une autre façon de vivre qui s'en vient pour bientôt. Alors, c'est après cette liste de bénédictions qu'on appelle les béatitudes qui sont adoptés par ceux qui font la volonté de Dieu. Le Christ a décrit les béatitudes qu'on vient de voir, et à ce moment-là, le Christ résume le tout au verset 13 qu'on a vu jusqu'au verset 16 de Matthieu 5. Et je résume quand il dit « Vous devez être le sel de la terre, la lumière du monde ». Ça résume tous les points que je viens de vous mentionner. La façon chrétienne de vivre qui honore Dieu. Pourquoi on fait ça? Justement, d'abord pour plaire à notre grand Dieu et développer son caractère, pour être prêt à régner bientôt sur le monde. Et deuxièmement, pour être des exemples pour ceux autour, pour être des exemples silencieux pour ceux autour. Ce qui aura des répercussions lointaines dans le temps. même pour ceux qui nous persécutent actuellement, parce qu'ils ne comprennent pas encore. Mais ils vont en bénéficier plus tard du fait que vous allez avoir tenu et que j'aurai tenu jusqu'au bout. 1 Pierre 2, un dernier verset. 1 Pierre chapitre 2. L'apôtre Pierre le dit clairement ici. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, la conduite que je viens de vous décrire dans les béatitudes que le Christ a données. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, au milieu de ceux qui ne comprennent pas pour l'instant, mais qui pourront comprendre plus tard, afin que là même où ils vous calomnient, ils vous accusent et tout ça, et vous font du trouble, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils voient ce que vous faites quand même, même s'ils ne le comprennent pas. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu et remercient Dieu de ça, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez tenu, au jour où il les visitera. Comprenez-vous? Le jour où Dieu va appeler là où les personnes qui sont contraires à ce que vous faites actuellement, qui vous accusent ou qui vous créent des problèmes ou qui vous persécutent parce que vous vivez autrement, ces mêmes personnes-là vont remercier Dieu que vous ayez tenu pour que eux puissent à ce moment-là comprendre et être appelés à leur tour. Alors moi, je vous dis en terminant, demandons au Christ, notre grand frère tout-puissant, de nous aider à devenir de plus en plus le sel de la terre et la lumière du monde.